Bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Ce sont les chansons qui restent. C'est surtout, faut pas se mettre dans la tête que c'est Annie Cordy, mais ce sont les chansons qu'ils ont envie de chanter. On voit des tout petits de 4-5 ans qui chantent à tailleux, je suis au cacao, parce qu'ils peuvent jouer dessus et tout ça.
Les chansons d'Annie Cordy resteront dans notre mémoire collective. La chanteuse belge est décédée cet après-midi, elle avait 92 ans. La rentrée scolaire, c'était seulement il y a 4 jours et déjà des écoles et des classes fermées. Elles sont encore peu nombreuses, on verra comment tout ça s'organise. Emmanuel Macron était ce matin au Panthéon pour les 150 ans de la République. Il y a précisé sa vision de la République. Troisième jour du procès des attentats de janvier 2015, avec des accusés absents mais omniprésents. En football, Lionel Messi restera finalement au FC Barcelone. Le Tour de France, nouvelle victoire d'étape pour le Belge Wout van Aert. Le Britannique Adam Yates conserve le maillot jaune. La Bourse de Paris finit en léger repli ce soir de 0,89% à 4965 points. Météo complète à la fin du journal avec Anissa Haddadi. Et puis votre rendez-vous éco à 22h20 comme tous les soirs de la semaine. Ce soir, Emmanuel Dutheil reçoit le directeur général du groupe Clésia pour parler de la citoyenneté d'entreprise.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On l'a appris ce soir, la chanteuse belge Annie Cordy est décédée à l'âge de 92 ans. L'interprète de succès populaires comme Tata Yo-Yo ou encore La Bonne du Curé a fait un malaise en fin d'après-midi. Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir.
Elle était belge, bien sûr, mais elle aura marqué pendant plus de 50 ans la chanson française.
Oui, chanteuse, meneuse de revue, mais aussi comédienne. L'artiste Annie Cordy est née au nord de Bruxelles en 1928. Elle arrive à Paris en 1950. Elle a 22 ans quand elle débarque au Lido. Pétillante, piquante, toujours pleine d'énergie sur les scènes de music-hall, elle crée la version française de la comédie musicale Hello Dolly en 1972.
Hello Dolly, oui c'est moi, Dolly.
Et on se souvient surtout de ses chansons dans les années 70 et 80, à commencer par ce tube-là. Et puis bien sûr, La Bonne du Curé, chanson pour laquelle elle obtient un disque d'or en 1974.
Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas même un péché. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je veux pas.
Alors en parallèle, elle suit une carrière au cinéma, une quarantaine de films, depuis ses débuts avec Sacha Guitry dans Si Versailles m'était compté en 1953, jusqu'en 2016 où Annie Cordy montait les marches à Cannes aux côtés de Catherine Deneuve. Elle avait notamment tourné avec Bourville et De Funès, ou dans des rôles plus touchants dans Le Passager de la pluie de René Clément ou La Rupture de Claude Chabrol. Si la France était son pays, elle disait que la Belgique était sa patrie. Elle est élevée au rang de baronne par le roi des Belges Albert II en 2004. Annie Cordy s'est éteinte ce soir dans sa résidence de Valoris sur la Côte d'Azur. Elle avait 92 ans.
Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées, je fais des bêtises derrière l'église.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois, et puis on aura bien évidemment l'occasion de reparler de cette immense carrière d'Annie Cordy dans nos prochaines éditions et dans la matinale demain matin de Pierre de Villeneuve. En plein cœur de l'été, le secrétaire d'État au tourisme faisait un rêve que les Français continuent à partir en septembre pour relancer une économie touristique particulièrement sinistrée avec la crise du coronavirus. Septembre, nous y sommes et les premières tendances, elles, ne sont pas franchement très bonnes, Pauline Jacquot.
Oui, selon les derniers chiffres des professionnels du tourisme, les réservations chutent de 70% dans les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille, des baisses de 20 à 30% dans les régions balnéaires, le Nord, la Bretagne, l'Aquitaine, le Sud-Est de la France. Les retraités, la clientèle habituelle des mois de septembre et octobre, est absente cette année, selon Hervé Beckham, de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
La peur, la crainte de la recrudescence de la maladie les empêche de voyager, les empêche de se déplacer. Et c'est un manque important dans notre activité aujourd'hui. Je ne sais pas si le gouvernement a pris la juste mesure de ce qui nous attend et de la catastrophe qui nous attend là, en septembre-octobre.
Le gouvernement qui tient à rassurer justement, non, l'arrière-saison n'est pas perdue. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, met en avant une mobilisation de l'État aux côtés des hôteliers et des restaurateurs.
On a jusqu'au 20 septembre la campagne hashtag cet été je visite la France, donc beaucoup sur le numérique, le digital. Et puis à partir du 20 septembre, justement, on est vraiment sur une logique de continuer à faire la promotion du territoire en redéployant les moyens que nous consacrions auparavant au grand international.
Mais les professionnels pour le moment ne sont pas franchement convaincus. Il n'y a aucun signe positif pour les deux mois qui viennent, disent certains. À Marseille, un hôtelier regrette même perdre en ce moment tous les bénéfices engrangés en juillet et en août.
Merci Pauline Jacquot. La rentrée scolaire, c'était mardi dernier, 4 jours après la reprise seulement. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce matin sur Europe 1 que 22 écoles, collèges ou lycées avaient dû fermer, ainsi qu'une centaine de classes. Des fermetures pour des cas avérés de coronavirus. Alors, c'est un chiffre qu'il faut bien sûr relativiser. 22 établissements sur les 60 000 que compte la France, ça représente un peu moins de 0,03%. Johanna Chabas, vous vous êtes rendue tout à l'heure dans une école du 16e arrondissement de Paris où deux classes ont dû être fermées.
Tout ça à cause d'un seul cas confirmé de coronavirus. Un garçon de CE2 a été testé positif hier. Dès qu'elle l'a su, l'Académie de Paris a donc décidé de fermer sa classe, mais aussi celle de son petit frère en moyenne section de maternelle, par pure précaution. Leurs camarades doivent rester chez eux pendant 2 semaines. La fille de Valérie est une élève de cette classe de CE2.
On est toujours un peu inquiet quand même. J'essaie de pas trop y penser, ça sert à rien. On s'attendait à ce que la rentrée soit difficile, mais je dois dire que là, au 3e jour, c'est quand même très très rapide et c'est très compliqué. J'espère quand même qu'elle sera pas infectée parce que c'est vrai que c'est quand même plein d'interrogations en plus.
Cette inquiétude est partagée par tous les parents que j'ai pu rencontrer. Ils craignent que le virus se soit propagé dans toute l'école, en récréation notamment. Mais les autorités veulent les rassurer. Normalement, avec le protocole sanitaire, les élèves de différentes classes ne peuvent pas se croiser. Donc peu de risque d'une contamination dans tout l'établissement. Les enfants des classes fermées doivent faire un test Covid dans 1 semaine avant de pouvoir espérer revenir à l'école à la fin de leur 14e.
Merci Johanna Chabas. Ce matin sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'en cas de fermeture massive de classes, il déclencherait un protocole pour aider les familles à garder leurs enfants. Les collectivités locales pourraient être mises à contribution pour assurer justement ces gardes. Près de 9000 cas de coronavirus détectés en 24 heures, un nombre jamais enregistré depuis le début de l'épidémie. Et les mauvais chiffres se confirment à tous les étages. 46 personnes ont été admises en réanimation aujourd'hui.
Europe 1, Victor Dolande.
Emmanuel Macron était au Panthéon ce matin pour y prononcer un discours sur les 150 ans de la proclamation de la République. C'était en 1870, après la défaite de Napoléon III à Sedan. La République est fragile et nous devons la protéger. Avec ces mots, le chef de l'État s'est exprimé sur la sécurité, l'identité, mais aussi sur le séparatisme. Adrien Beck, le président a volontairement utilisé une formule très forte.
Oui, c'est la description d'une république jamais acquise et même menacée. Emmanuel Macron ose le terme, alors il prône en réponse un patriotisme républicain. Une république ne choisit pas son histoire, ne déboulonne pas ses statuts, ne s'en prend ni aux élus ni aux forces de l'ordre, a dit le chef de l'État, pas plus qu'elle n'admet de communautarisme.
Il n'y aura jamais de place en France pour ce qui, souvent au nom d'un dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe, la République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste.
En fait, le chef de l'État a voulu ce matin préciser sa vision de la République, lui que l'extrême droite ainsi que la droite accuse régulièrement d'être ambigu sur les sujets de laïcité, de communautarisme, d'intégration. Emmanuel Macron a aussi livré un plaidoyer pour l'apprentissage du français. Ce discours sera en fait l'ouverture, l'introduction d'une phase où tous ces sujets seront abordés à partir de la semaine prochaine, de l'immigration à l'égalité des chances en passant par la sécurité. Emmanuel Macron a donc fixé un cadre, c'est la tête et les jambes, nous confiait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'issue de la cérémonie. Comprendre après les mots place aux actes, avec notamment la présentation d'une loi contre les séparatismes. Ce sera mi-septembre.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. La droite fait sa rentrée depuis cet après-midi. Les Républicains sont réunis jusqu'à demain à Port-Marly, dans les Yvelines. Un rendez-vous sur lequel plane l'ombre de la prochaine élection présidentielle. Ce sera en 2022. Vous le savez, la proposition du maire de Nice, Christian Estrosi, de soutenir Emmanuel Macron a suscité une levée de boucliers et soulevé de nombreuses interrogations, dont une essentielle pour les partisans de la droite. Qui sera leur candidat en 2022 ? Aurélie Herbemont, vous suivez cette rentrée de la droite pour Europe 1. Plusieurs candidats commencent à sortir du bois, mais celui que la droite attend, c'est surtout François Baroin.
Oui, le maire de Troyes sera là demain, mais à droite, plus grand monde ne se fait d'illusions sur sa décision. Rares sont ceux qu'il voit se lancer dans une aventure présidentielle. Il a montré tous les signaux d'une absence d'envie, glisse un dirigeant. François Baroin est pour le moins discret dans le débat public. Il aurait pu profiter des municipales pour se montrer, peste un cadre. Même Nicolas Sarkozy, proche du patron des maires de France, ne le ménage plus devant ses visiteurs. Si on ne pense à la présidentielle qu'un jour sur deux, ce n'est pas la peine, dit l'ancien chef de l'État. Alors à droite, beaucoup pensent à 2022, mais François Baroin moins que les autres. Certains de ses amis évoquent une volonté de protéger sa famille, car une présidentielle, c'est une épreuve. Évidemment, une candidature Baroin arrangerait beaucoup de monde chez LR, mais si son absence d'ambition présidentielle se confirme, le parti devra se trouver un autre champion. Son entourage continue toutefois à entretenir le mystère, en expliquant qu'il fera connaître son choix et les raisons de ce choix plus tard. Mais ici, beaucoup espèrent que si c'est vraiment non, il ne fera pas mariner trop longtemps sa famille politique.
Merci Aurélie Herbemont. C'était aujourd'hui la troisième journée du procès des attentats de janvier 2015. Justin Morin, vous êtes sur place pour Europe 1. On a beaucoup parlé des absents aujourd'hui, avec notamment la sœur d'Ayat Boumediene.
Oui, soyons clairs, Keltoum Boumediene n'est pas coupable, mais c'est la dernière à avoir parlé à Ayat Boumediene, la compagne d'Amedi Coulibaly. C'était il y a presque un an par téléphone. Donc pour les parties civiles, elle sait forcément quelque chose. Elle est une des clés de ce procès. Keltoum Boumediene commence par décrire sa sœur, une petite fille qui ambitionnait de devenir prof d'histoire, traumatisée enfant par le décès de sa mère. Sa rencontre avec Amedi Coulibaly en 2007, elle est alors amoureuse et épanouie. Puis elle commence à porter le niqab. Sa sœur constate bien qu'Ayat Boumediene est de plus en plus pratiquante, mais jamais, elle le jure, elle n'aurait imaginé qu'elle participe aux attentats de janvier 2015. Keltoum Boumediene raconte ensuite son émotion quand sa sœur l'a rappelée pour la première fois, 4 mois après les faits, puis la dizaine d'appels qui ont suivi jusqu'à l'année dernière. À l'écouter, elles prennent des nouvelles l'une de l'autre, rien de plus, jamais elle ne dira où elle se trouve. Que retenir de tout cela ? Maître Metzger, avocat des parties civiles, tire la première flèche. « Vous êtes la seule qui puissiez nous aider », implore-t-il. « Elle ne vous a rien dit en 5 ans, juste ça va, on ne peut pas vous croire. » Keltoum Boumediene encaisse, mais jure de tout faire pour aider la justice. « Et si je garde un lien », se justifie-t-elle, « c'est parce que j'ai l'espoir qu'un jour, ma sœur me dise, je veux revenir en France. »
Merci Justin Morin. À noter que le dernier numéro de Charlie Hebdo, dans lequel ont été republiées les caricatures du prophète, a été épuisé dès le premier jour. 200 000 exemplaires écoulés, ce qui représente 3 fois le tirage habituel. Ce numéro est d'ailleurs en cours de réimpression.
Europe 1, Victor Dolande.
Cette fois, on connaît la fin du feuilleton de l'été au FC Barcelone. Lionel Messi ne partira pas. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Lionel Messi a annoncé dans une vidéo ce soir qu'il restait en Catalogne. Il y a 10 jours, il avait pourtant annoncé son intention de quitter le club. Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant à Barcelone. Ce n'est donc pas cette saison que Lionel Messi ira voir ailleurs.
Oui, il reste à contre-cœur parce que pour le moment, juridiquement et financièrement, son départ est impossible. Face à l'intransigeance du Barça à qui il doit encore 1 an de contrat, Messi fait donc marche arrière. Il ne veut pas que son histoire d'amour avec le club catalan se termine devant la justice.
Aller au procès, c'est une folie. Je n'irai jamais en justice contre le club que j'aime, le club qui m'a tout donné, le club de ma vie. Et ça ne m'est jamais passé par la tête d'intenter un procès au club pour pouvoir partir.
Les avocats de l'Argentin sont peut-être allés trop vite en annonçant son départ. Manchester City, le club qui souhaitait le recruter, n'était pas prêt à aller au bras de fer avec le Barça. Cet épisode écorne sans doute l'image de Messi, mais les supporters sont soulagés. Et pour Albert Dalmau, il faut rapidement passer l'éponge.
Évidemment que je pardonne à Messi, qu'il retourne au travail, qu'il revienne à la maison et qu'il retourne dans son stade, le Camp Nou.
Mais ce soir, le joueur a eu des mots très durs contre la direction de son club. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de projet et qu'il n'y a rien. Messi reste, mais les relations avec Barcelone sont loin d'être apaisées.
Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. En France, la Ligue de football professionnel annonce ce soir avoir allégé le protocole médical face au coronavirus en Ligue 1 et en Ligue 2. La LFP autorise les matchs tant que 20 joueurs sur 30 sont testés négatifs. Jusqu'à présent, les matchs pouvaient être reportés à partir de 4 cas dans le groupe professionnel. Et puis, le Tour de France, la 7e étape aujourd'hui a été remportée par le Belge Wout Van Aert à Lavaur. Une deuxième victoire d'étape pour le coureur de l'équipe Jumbo, Axel May.
Oui, l'équipe Jumbo-Visma avec Wout Van Aert remporte un nouveau succès après Privas pour Van Aert mercredi. Eh bien, c'est ici à Lavaur que le coureur belge a levé les bras. L'étape a été marquée par l'accélération en début de course des coéquipiers de Peter Sagan pour qu'il récupère son maillot vert de meilleur sprinter. Puis, en fin d'étape, à la sortie de Castres, l'équipe d'Egan Bernal, le vainqueur sortant du Tour de France, a appuyé sur les pédales, créant une bordure, une cassure au sein du peloton maillot jaune. Bordure qui a été fatale à plusieurs favoris ou en tout cas à plusieurs leaders. Résultat, si Adam Yates est toujours maillot jaune devant Roglic, Guillaume Martin est désormais 3e du classement général, Bardet 7e, Pinot 8e, sans oublier Alaphilippe qui frappe à la porte du top 10. De quoi faire saliver le public avant le week-end pyrénéen qui attend le peloton.
Merci Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 sur la grande boucle. La Bourse de Paris finit en léger repli ce soir de 0,89% à 4965 points. Il est 22h15 sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil à la météo de demain. La météo avec vous, Anissa Dadi, et pour la journée de demain, ce sera un peu plus estival au sud qu'au nord.
Oui, en effet, Victor, et on va commencer, si vous le voulez bien, par les moins bonnes nouvelles, puisque sur la moitié nord, demain, le ciel sera couvert avec, sur les Ardennes, des petites averses en début de journée. Et puis, de la Vendée à l'Alsace, là, les nuages seront vraiment très épais en début de journée, puis vont se dissiper dans l'après-midi. Dans le sud, sur le golfe de Gascogne et le golfe du Lion, les entrées maritimes seront nombreuses. Demain matin, elles vont se dissiper aussi au fil des heures, partout ailleurs. Le soleil brille et c'est encore une belle journée d'été. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager au sud de la Loire. Il fait très beau, une journée estivale. Et puis sur la moitié nord, au nord de la Loire, donc encore quelques passages nuageux, mais des éclaircies seront un petit peu plus fréquentes. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 10 à 16 degrés en moyenne en France, jusqu'à 20 degrés au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, il fait beaucoup plus frais au nord avec 18 degrés à Boulogne-sur-Mer, 20 à Lille, 22 à Paris, ça baisse, hein, 25 à Montluçon. Et beaucoup plus chaud sur la moitié sud avec 27 à Bordeaux, 29 à Marseille, 30 à Toulouse et Saint-Etienne, 31 pour Carcassonne et 32 la maximale pour Lyon.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Merci Anissa Dadi pour cette météo. Europe 1. Dans un instant, la bourse et l'interview éco d'Emmanuel Duteil. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Victor Dolande.
Bonsoir Didier Hameau de Boursier.com. Wall Street a poursuivi son mouvement de repli ce soir avec les valeurs technologiques américaines.
Ça continue, oui, la correction entamée hier se poursuit à Wall Street, en particulier effectivement sur les valeurs de technologie. Le Dow Jones, moins 0,56%, 28 133 points, c'est quand même moins violent qu'hier. Le Nasdaq cède quand même 1,27%, 11 313 points. Il avait perdu 5% hier, donc une correction qui se poursuit après les records de ces dernières semaines. On souffle sur l'ensemble des valeurs de technologie. Malgré les bons chiffres de l'emploi publiés aux États-Unis aujourd'hui, ce sont encore donc les grosses valeurs qui cèdent du terrain, comme Amazon, moins 2,2%, Facebook, moins 2,8%. Netflix perd 1,8%, Microsoft moins 1,4% et IBM moins 1,7% à $122. Apple est plus stable, ça avait pas mal baissé aussi ces deux dernières séances. Apple se stabilise, $121, et Tesla reprend même un petit peu de hauteur après la purge de cette semaine. Plus 2,8%, Tesla remonte à $418. Sur le pétrole, ça baisse de nouveau sous les $40. On retombe sur le baril WTI. Pour la première fois depuis le mois de juillet, on est à $39.50. C'est une baisse de 4%. Et puis sur les devises, l'euro campe au-dessus des 1,18 face au dollar.
La Bourse de Paris, Didier, a suivi aussi le mouvement pour terminer également dans le rouge.
Oui, pas de surprise. La bourse de Paris a été plombée par Wall Street en baisse de 0,89%, 4 965 points. Donc de retour sous la barre des 5 000 points après avoir tenté de résister en séance. Ça n'a pas suffi. Il y a eu des dégagements, de nouveaux dégagements sur les valeurs exportatrices en particulier, avec des prises de bénéfices sur des dossiers comme Worldline, moins 4%, Pernod Ricard, moins 3%. Le secteur aéronautique a baissé de nouveau. Airbus, moins 2,5%. Thales, moins 2,3%. On a aussi de grosses valeurs comme Ubisoft qui perd 2% avec STMicro et Veolia aussi qui termine en baisse sous les 20 euros, 19,54 euros.
Exception du jour en revanche, le secteur bancaire qui s'est distingué à la hausse.
Effectivement, oui, c'est bien remonté. Alors, il y a une raison à cela, hein, c'est la spéculation qui est venue se greffer sur le secteur en raison des discussions en Espagne qui ont lieu actuellement entre Bankia et CaixaBank en vue d'un possible rapprochement, un possible mariage entre ces deux établissements financiers. Ça donne des idées aux opérateurs avec des banques qui s'agitent en France. La Société Générale a repris 5,6%, le Crédit Agricole est monté de 3%, BNP Paribas plus 3% aussi, donc le secteur bancaire en hausse ce soir, c'était l'exception du jour. Sur les autres places financières, ça baisse partout en Europe encore. Francfort, moins 2%, Milan, moins 0,8%, Bruxelles, moins 0,5%, Madrid, moins 0,2%, et on rappelle le CAC 40 en baisse de 0,89%, 4 965 points.
Merci Didier Hameau de Boursier.com pour cet éclairage quotidien sur les bourses mondiales. Il est 22h22 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'interview éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le directeur général du groupe Clésia pour parler de la citoyenneté d'entreprise.
Christian Schmitt de Labrelli, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du groupe Clésia. Clésia, c'est l'un des leaders en France de la protection sociale. C'est tenu aujourd'hui le deuxième forum de la responsabilité sociale et environnementale de Giverny, un forum dont Europe 1 était partenaire. Et c'est à cette occasion que nous avons eu envie de vous avoir en ligne justement depuis Giverny. J'ai beaucoup aimé votre table ronde sur la citoyenneté d'entreprise. Je trouve que c'est un mot très fort. D'après vous, aujourd'hui, plus que jamais, une entreprise se doit d'être citoyenne, Christian Schmitt de Labrelli ?
Alors très clairement, remonté de ce groupe de travail que j'ai pu avoir le plaisir de co-présider avec Hélène Valade, un groupe de travail très productif qui a pris en compte le fait que l'ARSE, comme le disait encore ce matin Barbara Pompili, ne doit plus être une contrainte, mais une exigence de la part de l'entreprise en général. Les investisseurs sont en demande, vous voyez la naissance, beaucoup de fonds dit impact, et la crise sanitaire est accélérateur de sens, et on voit aussi une nouvelle génération qui place cette valeur et ce sens bien au-delà de la rémunération au niveau de nos plus jeunes actifs.
Mais justement, qu'est-ce que vous entendez, vous, concrètement, derrière ce terme qui est extrêmement fort, hein, de citoyenneté d'entreprise ?
De citoyenneté d'entreprise, c'est quelle est la nature que peut participer l'entreprise quant à toutes les dimensions relatives à l'intérêt général. Alors c'est vrai que Clésia, en tant qu'assureur d'intérêt général, en tant qu'entreprise à mission, est peut-être un peu plus mature que d'autres entreprises de taille plus petite dans ce domaine, sachant que seuls 29% des PME, disait la BPI, ont entrepris une démarche RSE structurée, alors que 80% de leurs dirigeants se sentent responsables du bien-être des salariés, de la vie locale, du respect de l'environnement, dans toutes les composantes de la RSE.
Vous le disiez, hein, Clésia est une entreprise à mission. Est-ce que c'est pas cela aussi qui est peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, qu'il faut faire attention aux salariés, mais surtout que ce que l'on fait au sein de l'entreprise doit avoir du sens. Et pour ça, c'est plus facile de définir si l'entreprise elle-même s'est fixé les priorités sociétales et environnementales qui sont les siennes.
Exactement. Ces critères extra-financiers, hein, que l'on remarque dans ces entreprises à mission et chez Clésia ont en fait une incidence économique majeure. Dans l'écosystème que sont d'une part les salariés, d'autre part nos clients, en troisième point nos fournisseurs et bien évidemment notre gouvernance au sens large, la prise en compte de la satisfaction du client, du bien-être des salariés, d'une relation pérenne avec des fournisseurs et garante là aussi, inévitablement, même si ce sont des critères extra-financiers, d'une création de valeur économique de l'entreprise.
Même si bon, vous n'avez pas encore énormément de recul chez Ecclesia sur ce terme d'entreprise à mission, qui est le cadre, qui permet finalement d'avoir bien une sûr. Citoyenneté d'entreprise, qu'est-ce que véritablement aujourd'hui vous en retirez comme bienfait pour l'entreprise, parce que c'est important, et bien évidemment aussi pour ses collaborateurs?
Un engagement fort des collaborateurs qui trouvent tout le sens dans l'exécution de leur mission. Je vous prends un exemple sur la composante des salariés avec des objectifs de RSE, notamment en matière d'inclusivité, en matière de taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Je prends ce critère-là. Lorsque vous avez une personne de situation de handicap qui intègre un service, vous voyez tout de suite une certaine cohésion sociale, une élévation de la qualité de service, d'appétence et de bienveillance qui fait que le service fonctionne beaucoup mieux dans ces éléments durables que plutôt dans des règles plus anciennes.
Dans le cadre du plan de relance, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne veut pas de conditions pour les entreprises contre des prêts ou autres, mais il veut des engagements d'une certaine manière qui ne seraient pas contractuels. Parmi ces engagements, il cite la transition écologique, il cite une meilleure gouvernance, c'est-à-dire notamment avoir beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité et également mieux associer les collaborateurs à la richesse de l'entreprise. Est-ce que du coup, d'après vous, cet après-Covid va être une sorte de tournant pour la RSE?
Ben, c'est un accélérateur, très clairement. Nous sommes passés peut-être ces dernières années d'une logique de greenwashing au sens large.
Et alors, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le mot, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui disaient faire des choses vertes et qui finalement ne faisaient strictement rien.
C'est ça. Et avec une logique, je reprends le terme anglo-saxon de purpose washing, sur lequel, finalement, je prends l'exemple de l'entreprise à mission, c'est la mise en place d'indicateurs et l'obligation de les suivre dans la durée et de rendre compte vis-à-vis de nos clients comme vis-à-vis de notre gouvernance de ces mêmes indicateurs. Donc ça reste quelque chose qui était peut-être plus de la communication il y a quelques années et là qui devient un objectif qui se doit d'être atteint pour pouvoir engager un certain nombre de rémunérations à la fois de l'actionnaire dans une société capitalistique ou pourquoi pas des salariés sur un certain nombre de thèmes de leurs variables.
Vous, typiquement, chez Ecclesia, vous êtes d'accord pour indexer la rémunération des managers sur des engagements sociétaux et environnementaux ?
Alors, pour tout vous dire, nous avons mis en place cette année le fait que l'ensemble du comité exécutif du groupe, 50% de sa rémunération variable est indexée sur des critères de RSE.
Donc par exemple, vous, votre rémunération dépend en partie de votre capacité à faire bouger votre entreprise sur ces thèmes ?
Très clairement, avec des orientations qu'on va retrouver sur la satisfaction de clients, des orientations qu'on va regarder sur le dialogue social, sur le taux d'emploi de handicap dans ce domaine, d'une relation plus verte vis-à-vis de nos fournisseurs, de nos investissements d'actifs. Ecclesia gère à peu près 10 milliards d'euros d'actifs, de faire en sorte que la robustesse au sens green soit très clairement affichée dans ces domaines.
Eh bien, un grand merci Christian Schmitt de la Brelli, le directeur général du groupe Ecclesia, l'un des leaders de la protection sociale, d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. On se retrouve lundi à 22h20. Bon week-end à tous.
Merci Emmanuel Dutheil et l'interview écho, elle est à retrouver sur le site d'Europe1.fr. Restez avec nous. Dans une minute, nous découvrirons les unes de la presse de demain. Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Une file ininterrompue devant des laboratoires d'analyse médicale à la une du Figaro avec ce titre « Dépistage du Covid, le grand embouteillage ». Dans les régions les plus touchées, l'encombrement pose un gros problème aux autorités de santé. Même sujet à la une de Libération avec cette question « Test, est-ce qu'on en fait trop ? Avec la multiplication des campagnes massives de dépistage, les laboratoires sont saturés, les résultats mettent du temps à arriver, laissant au virus le temps de se propager. Plusieurs spécialistes de santé publique appellent à un changement de stratégie immédiat. À la une de Ouest France, le mystère des chevaux mutilés. Chaque jour, ou presque, des poneys, des ânes ou des chevaux sont tués ou sévèrement mutilés. Dans la Manche, jeudi, dans le Morbihan, la veille, dans l'Allier, le Vaucluse. Le journal s'interroge, qui se cache derrière ces mutilations ? Une secte, un défi sur Internet. Les motivations des auteurs de ces violences laissent perplexes les enquêteurs. Il est 22h30, l'heure de retrouver la Libre Antenne avec Sabine Marin. Bonsoir Sabine, et comme tous les soirs, les auditeurs peuvent vous appeler bien évidemment au 3921.
Bonsoir Victor, rendez-vous dans une demi-heure avec vous pour les prochaines infos.
A tout à l'heure Sabine.